Salut, c'est Théo. Je suis le fondateur et CEO de Koudak, l'agence de growth préférée de ton e-commerçant préféré. Mon travail et celui des 50 membres de mon équipe, c'est de craquer les problématiques de croissance de nos clients e-commerce avec de l'ads, de la créa et du conseil en growth. Dans ce podcast, j'élargis ma culture en enregistrant mes discussions avec les plus belles marques e-commerce françaises en format d'interview ou de table ronde. On a un but, c'est de répondre à une seule question, comment elles ont grossi. Si l'épisode te plaît, oublie pas de mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme de ton choix, parce que ça me demande beaucoup de travail et que je suis chaud si tu peux au moins y passer 5 secondes. Sans plus attendre, j'arrête de t'embêter, je te laisse avec cet épisode, c'est parti.
Upway, on est une plateforme de vente de vélos électriques reconditionnés. On est là pour acheter des vélos, on est là pour les retaper, les remettre en état, les mettre dans des super conditions. Et ensuite, on est là pour les vendre, les livrer à domicile et offrir une expérience hyper qualitative à l'acheteur.
Tu peux nous décrire un peu comment ça s'est passé, ces premières phases ?
On a littéralement façonné d'abord la toute première équipe de lancement, donc notre premier recrutement. La deuxième chose, c'était de trouver un atelier, un entrepôt. Il fallait qu'on ait un endroit où stocker et réparer tous ces vélos. Et la troisième étape, c'était de lever des fonds. Mais le marché de l'occasion est encore complètement sous-développé. Les gens, quand ils cherchaient une offre sur Internet, très vite, quand ils tombaient sur notre site, ils étaient convaincus que c'est là qu'ils achèteraient le leur, même si ça leur prendrait quelques semaines. Donc on a eu une très bonne réponse assez vite. Ouais.
Salut Toussaint, comment tu vas ?
Salut Théo, ça va bien et toi ?
Moi ça va très bien, je suis très impressionné, je relis bien tes chiffres parce que franchement ils piquent un peu les yeux tellement ils sont gros. Je suis très content de faire cet épisode parce que j'y croyais pas trop honnêtement quand tu nous as redit même avant l'épisode. Vous existez depuis un petit peu plus d'un an, donc ouais. Upway, je te laisserai après pitcher, n'inquiète pas, il y aura du temps. Vous en êtes à 1,5 million de revenus mensuels, ouais. Pas de revenus annuels. Donc c'est une belle histoire de croissance. Tu as passé un peu de temps chez Uber avant. Ouais. Tu as fini par t'associer avec une personne que tu as rencontrée là-bas.
Ouais.
Donc c'est une histoire rapide, parce que c'est novembre 2021, le début de la commercialisation, de l'accès au truc. Et vous avez commencé en juillet 2021, donc ça allait très vite aussi. Vous êtes présent dans plusieurs pays. On va avoir pas mal de sujets à traiter ensemble, qu'on peut ranger dans deux grandes catégories, qu'on a préparé ensemble avant. La première partie, c'est sur l'exécution. Donc en gros, tu t'es décrit comme quelqu'un de très focus. Et même tu as décrit la boîte comme très focus, donc j'ai envie de en savoir un petit peu plus là-dessus, ce que ça veut dire et en quoi c'est un vecteur de croissance. Et le second sujet, c'est un sujet qui me parle un petit peu plus, c'est sur le marketing, où il y a pas mal de choses à traiter ensemble. Ouais. Je ne vais pas spoiler pour que les gens restent jusqu'à la fin de la vidéo et que ça nous fasse du watch time, tu connais. Et on va finir par parler des perspectives, évidemment. Écoute, Toussaint, je te laisse te présenter Upway, c'est à toi.
Avec plaisir, merci déjà de m'accueillir. Donc, je m'appelle Toussaint, je suis le cofondateur de Upway. Upway, on est une plateforme de vente de vélos électriques reconditionnés. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on achète des vélos électriques d'occasion auprès de particuliers et de professionnels. On a une équipe de mécaniciens qui les retape, donc fait un diagnostic complet du vélo, mécanique, électronique, et s'assure de les remettre dans le meilleur état possible. Et ensuite, on fait de la vente en ligne de ces vélos électriques reconditionnés. Ça veut dire qu'on propose des centaines de marques et aujourd'hui plus de 1000 modèles de vélos électriques à la vente. C'est des vélos qui sont jusqu'à 60% moins chers que le neuf et qui sont livrés à domicile et garantis un an. Donc ça permet de trouver le vélo de ses rêves à un prix qui défie un peu toute concurrence et livré à domicile avec la qualité d'un vélo reconditionné et la garantie qui vient avec notre offre.
Ok, donc le travail qui a eu lieu du coup entre juillet et novembre, c'est de mettre en place un business comme ça. Ouais. En gros, j'imagine, de façon très simple, tu dois trouver les vélos, tu dois construire ton entrepôt, tu les reconditionnes.
C'est ça.
Et ensuite, on va construire ta plateforme qui permet de les écouler. C'était quoi un petit peu les... Tu peux nous décrire un peu comment ça s'est passé, cette première phase ?
Ouais, concrètement, effectivement, on a quitté Uber en avril 2021. En juillet, on s'est retrouvé en se disant, bon, quoi qu'il arrive, on trouve d'ici la fin du mois une idée business à lancer. Et ce qu'on a identifié, c'est que tu avais une adoption énorme des vélos électriques au sens large, tu vois, et des vélos électriques neufs dont les ventes explosaient depuis plusieurs années. Mais les consommateurs faisaient face d'une part à des vélos électriques neufs qui sont quand même très chers, et ils n'avaient pas confiance dans les vélos électriques d'occasion parce que ça reste cher et qu'il y a quand même un moteur, une batterie, des sujets assez techniques. Donc on s'est enthousiasmé pour l'idée en juillet, et à partir de là, il y a eu, je dirais, trois grandes étapes. Un, il fallait trouver l'équipe de départ. Il fallait absolument qu'on ait une personne aux opérations parce qu'il y a quand même de la logistique, du reconditionnement, tout un enjeu opérationnel. Il fallait qu'on ait un chef mécanicien et nos premiers mécaniciens parce qu'il fallait retaper des vélos. Et il fallait qu'on soit en mesure tout simplement faire un peu de marketing sur la plateforme et s'assurer qu'on attire nos premiers clients. Donc, on a littéralement façonné d'abord la toute première équipe de lancement, donc notre tout premier recrutement. La deuxième chose, c'était de trouver un atelier, un entrepôt, parce que l'air de rien, c'est le nerf de la guerre. Hein. Il fallait qu'on ait un endroit où stocker et réparer tous ces vélos. Donc, ça a été la chasse à un entrepôt. Et, Et on a du coup pu obtenir les clés de cet entrepôt le 1er novembre, je crois, et peut-être que le 23 novembre, on vendait notre premier vélo. Et la troisième étape, c'était de lever des fonds. On savait que le projet avait un gros potentiel, qu'il y a plus de 5 millions de vélos électriques neufs qui sont vendus en Europe chaque année, mais le marché de l'occasion est encore complètement sous-développé. Donc, on savait qu'on était confiant, en tout cas, sur le product market fit de cette idée, et on voulait être en mesure de pouvoir la faire grandir rapidement. Et donc, on a fait une levée de fonds d'amorçage de 5 millions d'euros juste avant le lancement, donc en septembre-octobre 2021.
Alors, moi, j'ai une boîte bootstrap, donc forcément, la levée de fonds, c'est moins ma tasse de thé, mais c'est quand même énorme pour une première levée de fonds, 5 millions, on est d'accord?
Ouais, bah c'est vrai qu'on a, je pense, pu obtenir déjà une levée pareille parce que c'était à un moment où le marché des capitaux était assez ouvert. Je pense qu'il a quand même beaucoup évolué là, ces 6-9 derniers mois. Et je pense que d'une part, le potentiel du marché a beaucoup parlé aux investisseurs. Ils ont vu les courbes d'adoption de la mobilité électrique légère et ils se sont dit, en fait, quand tu fais face à des marchés pareils, si jamais j'ai une équipe capable de bien exécuter sur ce marché, il y a des potentiels assez énormes. Et ensuite, je pense que notre parcours, donc mon associé Stéphane et moi, on avait passé 7 ans chez Uber avant ça, en Europe, aux États-Unis. Et je pense que ça a aussi rassuré sur notre capacité à exécuter à grande échelle, monter des équipes et monter un service consumer à grande échelle. Donc, ça nous a permis de nous lancer dans de bonnes conditions.
D'accord. Et donc, tu avais directement la vision multi-pays au début, Europe
Et États-Unis, ouais. Donc, en fait, dès le lancement, on savait que déjà une de nos forces, c'est d'être capable c'est d'avoir un réseau de talents dans différents pays, c'est d'être capable de lancer des pays, d'avoir pu gérer différents pays, notamment chez Uber. Et en fait, on a réalisé que sur ce marché du vélo électrique reconditionné, il y avait un potentiel énorme dans toute l'Europe. Et on voit que la courbe d'adoption de vélo électrique, elle commence à exploser aux États-Unis aussi. Et il y avait très peu d'acteurs, même pas d'acteurs, qui existaient aujourd'hui sur ce positionnement. Donc on s'est dit, on a l'opportunité d'être, entre guillemets, le premier acteur significatif en Europe et en Amérique du Nord sur un produit qui, au fond, peut avoir une très, très grande échelle et un très, très gros impact. Et donc, dès le début, on s'est dit qu'on voulait absolument être capable d'opérer dans ces différents pays.
OK. Et, parce que c'est une croissance qui est quand même assez explosive. J'ai compté, ça fait 14 mois de commercialisation.
Ouais.
T'es arrivé à 1,5 million de revenus mensuels, c'est comme... Ça veut dire que le projet a directement... En fait, ça s'est déroulé comme ce que vous aviez vendu aux investisseurs, un petit peu ce que vous aviez... Quand vous avez mis en ligne le site internet, Traction, et...
Déjà, nous, c'était notre première expérience de lancement d'un tout nouveau produit, tu vois, d'une idée que tu mets en œuvre pour la première fois. Donc, clairement, la notion de product market fit et se demander si le produit va plaire, c'était un peu la grande inconnue pour nous et c'était le premier gros test. Maintenant, ce qui a été très rassurant très vite, c'est que notre conviction que offrir un grand choix de vélo électrique, c'est un produit très fragmenté, donc il y a énormément d'offres et donc être en mesure d'agréger cette offre, ça avait de la valeur. Le faire à des prix qui sont extrêmement compétitifs, puisqu'on est en moyenne 35% moins cher que le produit neuf, et le faire avec un haut niveau de qualité. Et depuis le début, on est obsédé par la qualité du vélo quand il sort de l'atelier, la qualité de la livraison, la réactivité de notre service après-vente. On était convaincus que ça ne pouvait que fonctionner, mais tout restait à prouver. Et c'est vrai qu'assez rapidement, on a eu une super réponse client. On a vu que ceux qui utilisaient le service et achetaient leur vélo chez nous étaient très satisfaits. On doit avoir maintenant... 1200 reviews sur Trustpilot avec 4,85 de notre moyenne. Enfin, les clients étaient très contents et on voyait que en fait c'est un produit qui en tout cas les gens quand ils cherchaient une offre sur internet, très vite quand ils tombaient sur notre site, ils étaient convaincus que c'est là qu'ils achèteraient le leur, même si ça leur prendrait quelques semaines. Donc on a eu une très bonne réponse assez vite. Ouais.
Ok, parce que du coup, tu fais le calcul, c'est des produits à haut panier moyen, c'est comme... C'est un peu comme, je pense beaucoup aux matelas en e-commerce, qui sont des trucs où les chiffres peuvent monter très vite.
Ouais.
En nombre de vélos vendus, tu as une idée un petit peu de ce que ça représente?
Ouais, bien sûr. Grosso modo, sur notre première année, tu vois, on a dû reconditionner de l'ordre de 5 000 vélos électriques. Avec du coup une forte croissance, puisqu'au début tu es à toute petite échelle et progressivement tu fais grossir un peu ton appareil opérationnel. Et en fait, on a ouvert plusieurs pays. On est en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, et du coup on achète et on revend dans ces 4 pays, et on le fait depuis 2 ateliers maintenant. On a donc notre atelier d'origine en Ile-de-France, et on a maintenant un deuxième atelier à Berlin qui nous permet de encore mieux desservir le marché allemand notamment, en sourçant des vélos localement et en ayant moins de déplacements logistiques quand on achète et qu'on revend.
Ok. Cette volonté de... de ne pas corneriser d'abord le marché domestique et d'aller directement dans d'autres pays, c'était parce que le constat que vous avez fait sur l'absence d'acteurs de référence sur le reconditionné, il était valable aussi dans plein d'autres pays. Donc c'était genre, il y avait une faille, il y avait un trou.
Ouais.
Ou alors c'est parce que vous saviez que vous aviez les compétences et vous disiez, bon, on va être meilleur sur ce truc-là plutôt que de...
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Et je pense que chaque business, de ce point de vue-là, est probablement très différent. Le premier facteur, c'est que l'opportunité était présente. Grosso modo, en Europe, en Amérique du Nord, on en était à peu près convaincus parce qu'on voyait les courbes d'adoption du vélo électrique, les ventes de vélos électriques neufs qui explosaient, et nulle part, on voyait effectivement une offre significative d'occasions, et d'occasions notamment reconditionnées. Donc, on était déjà convaincus qu'il n'y avait pas de raison pour laquelle la France marcherait mieux ou moins bien qu'un autre pays. Grosso modo, l'opportunité était significative un peu partout. La deuxième grande raison, c'est qu'en Europe, le marché est très gros. En fait, tu as 4 pays qui représentent grosso modo 75% des vélos électriques en circulation, donc les ventes des 7-8 dernières années de vélos neufs. Et donc très vite, on s'est dit, tu peux vraiment couvrir le 3/4 du marché européen avec 4 pays. Ce serait dommage de s'en priver, ce serait dommage de ne pas s'ouvrir toute cette opportunité, toute cette audience et tous ces clients-là. La troisième raison, c'est que logistiquement, en fait, c'est pas facile, mais c'est pas insurmontable de lancer un nouveau pays.
Ouais.
En fait, c'est fondamentalement une offre e-commerce. Donc, une fois que tu as un atelier, une fois que tu as les partenaires logistiques, tu es capable de livrer. Après, c'est un enjeu marketing, c'est un enjeu de sourcing. Mais concrètement, tu n'es pas obligé d'ouvrir une ville à la fois. Tu n'es pas obligé de à chaque fois reproduire l'intégralité de ta chaîne. Tu peux livrer un vélo qui est aujourd'hui en Île-de-France et tu peux le livrer en Belgique relativement facilement. Et je pense que la dernière raison, c'est que on avait le réseau de talents par notre expérience passée et donc la capacité d'aller vite dans le lancement de nouveaux pays.
Donc, tu as repris beaucoup de personnes avec lesquelles tu bossais sur Uber avant ?
Donc, on a une partie de l'équipe, effectivement, avec laquelle on a travaillé dans le passé chez Uber. C'est un énorme avantage parce que c'est des gens avec qui tu sais que tu bosses très bien, c'est des gens dont tu connais la valeur. On a, du coup, je pense, une densité de talent qui est assez folle grâce à ça. Mais par ailleurs, on a aussi recruté, en dehors de nos réseaux Uber. Et pareil, on a, du coup, un vivier de talent en dehors d'Uber également qui est assez inouï. Je pense que ça a été aussi une des raisons de la vitesse dont on parle et de la vitesse de développement en tout cas.
Okay. C'est marrant que tu dis ça, tu dis qu'opérationnellement, ce n'est pas une telle galère que ça d'ouvrir un nouveau pays. Moi, instinctivement, j'aurais dit que c'était un enfer en fait. Genre, tu as quand même besoin d'un entrepôt à chaque fois dans lequel tu dois faire venir tes mécanos parce qu'en fait, tu répares sur place à chaque fois les vélos. Genre, tu prends des vélos allemands que tu revends aux Allemands, tu reconditionnes, tu revends aux Allemands.
Concrètement, on achète dans toute l'Europe,
ouais.
On rapatrie les vélos dans deux ateliers, en Île-de-France et à Berlin. Et ensuite, de ces deux ateliers, on est capable de desservir les 4 pays. Donc, tu peux tout à fait vendre un vélo qui est en Allemagne, en France. Tu peux tout à fait vendre un vélo qui est à Paris, en Belgique ou aux Pays-Bas. Et donc, on a deux ateliers qui desservent 4 pays. Et donc, de ce point de vue-là, finalement, ce dont tu as besoin, c'est une équipe marketing capable de générer de la demande. Tu as besoin de partenaires logistiques capables de livrer dans ces différents pays. Mmh. Et tu as besoin d'une capacité de support, de SAV, qui te permet de répondre tout simplement aux questions éventuelles dans chacun de ces pays.
Ok. Et la partie supply, donc les vélos que tu récupères,
ouais.
Comment ça fonctionne ?
Donc alors, tout l'enjeu pour nous, effectivement, c'est de s'approvisionner en vélos électriques d'occasion qui, sinon, sont soit laissés de côté, voire jetés après quelques années. Et on a plusieurs sources d'approvisionnement. La première, c'est les particuliers. Donc, concrètement, toi, tu as un vélo électrique moustache depuis 2 ans, tu souhaites en acheter un neuf, tu vas venir sur notre site.
Vendre votre vélo.
Voilà, exactement, vendre votre vélo sur notre site. Donc, tu vas venir chez nous, tu vas nous renseigner quelques informations, une photo, et on va te faire une proposition de rachat. Et si tu es d'accord avec le prix, on va récupérer le vélo à domicile. Et dès qu'on l'aura inspecté dans nos ateliers, qu'on aura vérifié qu'il correspond à ce que tu nous as dit, on va te faire le virement bancaire qui correspond au montant sur lequel on s'est accordé. Donc ça, c'est les particuliers. Ensuite, on travaille avec 300 maintenant magasins partenaires de vélos et on leur propose en fait une solution de reprise. C'est-à-dire que au lieu de venir sur notre site, tu aurais pu aller dans une boutique, voir le vélo neuf que tu veux acheter et dire à la boutique, est-ce que vous pouvez reprendre mon ancien vélo ? Moi, je vous achète le neuf et je fais que payer la différence. Et en fait, cette boutique-là, aujourd'hui, grâce à Upway, elle est capable de dire, moi, ton ancien vélo, je peux te le reprendre, 1 200 €. Donc, en fait, tu vas me payer peut-être 1 000 au lieu de 2 000 € pour acheter ton vélo neuf. En fait, c'est Upway derrière qui va récupérer le vélo chez cette boutique, payer le magasin. Et du coup, le magasin, il n'a rien à faire et il a été en mesure de te vendre un vélo neuf qu'il n'aurait peut-être pas réussi à te vendre sinon. Donc, on offre cette solution de reprise au magasin. Et après, on travaille avec des flottes de leasing, des flottes de location qui, en fait, après 2, 3, 4 ans, ont besoin de renouveler leur flotte, vont vendre leur vélo usagé et vont en récupérer des neufs. Et ils sont ravis du coup de trouver un partenaire capable d'acheter en volume des vélos qui sinon pour eux seraient un peu une galère à gérer.
Ok. Et sur la seconde solution, là, celle du...
De la reprise.
Oui. Le consommateur, c'est à aucun moment qu'il bosse avec Upway.
Alors ça dépend des boutiques. T'en as qui communiquent sur le fait que c'est via Upway que la reprise se fait. Ça leur permet de gagner en crédibilité, notamment sur le prix de rachat. Ça permet de rassurer le client sur le fait qu'il récupère bien le vélo au prix du marché et qu'il n'est pas en train de se faire avoir alors qu'il pourrait peut-être le revendre plus cher ailleurs. D'autres préfèrent communiquer uniquement en marque blanche, donc ne pas communiquer sur le partenaire. Nous, fondamentalement, on est ouvert aux deux solutions. Ce qui importe pour nous, c'est d'être en mesure de donner une nouvelle vie à ce vélo électrique et de s'assurer qu'il ne traîne pas dans un garage.
Ok, beaucoup plus clair pour moi. Merci beaucoup.
Je t'en prie.
On va prendre le sommaire que j'avais annoncé. La première chose dont tu m'as parlé en préparation de cet épisode, c'est une des raisons de votre croissance, c'est l'exécution, la capacité d'exécution que tu as, comme tu viens de le faire dans le début de podcast, catégorisé en trois points. Tu m'as parlé du prix, tu m'as parlé de la confiance, tu m'as parlé du choix. Ouais. Tout ce qui ne rentre pas dans sa catégorie, on ne fait pas. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça veut dire quoi concrètement tout ça ?
Ouais, derrière le mot exécution, pour moi, il y a deux choses importantes. C'est on est très concentré sur le focus qu'on met sur les priorités du business. Donc, on essaie de surtout pas un peu diluer notre attention sur trop de sujets à la fois. Et donc, on y reviendra. Mais du coup, on a trois grosses priorités et on se bat tous les jours sur ces trois priorités et on évite de bosser sur autre chose. Et deux, c'est la vitesse. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire en une semaine plutôt que deux, tout ce que tu peux faire en un jour plutôt qu'une semaine, tout le temps que tu gagnes, en fait, il compound et en fait, il te fait gagner énormément de temps sur le long terme. Et c'est ce qui te permet d'accomplir en un an ce que tu aurais pu sinon accomplir en deux ou en six mois ce que tu aurais pu accomplir en un an. Donc, vraiment, le focus et la vitesse, c'est vraiment deux choses sur lesquelles on est hyper attentif. Et sur le focus, en l'occurrence, on a un business simple. Tu vois. Concrètement, on n'est pas en train de construire une centrale nucléaire. On est là pour acheter des vélos, on est là pour les retaper, les remettre en état, les mettre dans des super conditions. Et ensuite, on est là pour les vendre, les livrer à domicile et offrir une expérience hyper qualitative à l'acheteur. Et donc, ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. Et ce qu'on constate, c'est que ce qui génère de la croissance et ce qui fait qu'on convainc de plus en plus d'utilisateurs de se tourner vers nous pour acheter un vélo électrique d'occasion reconditionné, c'est d'une part le choix. En fait, c'est un marché qui est très fragmenté. Aujourd'hui, en moins d'un an, on a été capable de construire l'offre la plus vaste de vélos électriques d'occasion reconditionnés. On a plus de 1000 vélos électriques disponibles à la vente à un instant T sur le site internet. Et ça te permet de couvrir tous les usages. T'en as qui veulent des vélos de ville pour aller au travail tous les jours. T'en as qui veulent des VTT électriques pour aller dans la montagne faire des longues sorties le week-end. T'en as qui veulent des vélos cargo électriques pour emmener leurs enfants à l'école. T'en as qui veulent des speed bikes électriques qui vont jusqu'à 45 km à l'heure pour faire des plus longues distances. Donc, tu as tout un panel d'usages. À chaque fois, tu as des tailles différentes, tu as des marques différentes, tu as des gammes de prix différentes. Donc, offrir le choix le plus vaste possible, c'est déjà la première clé du succès. Parce que ça veut dire qu'il y a une plus grosse proportion de notre audience qu'on peut convertir puisqu'on aura le vélo qui leur convient. La deuxième chose sur laquelle on est hyper concentré et attentif, c'est le prix. Parce que concrètement, c'est parce qu'on est capable d'offrir des prix qui vont jusqu'à 60% moins cher que le neuf qu'on est capable de convertir aussi bien. C'est parce qu'on a des vélos électriques dès 500 euros alors que sur le marché du neuf, tu ne trouveras rien de valable en dessous de 1000 voire 1200 euros qu'on convertit aussi bien. Donc cette capacité à offrir ce choix-là à un prix extrêmement compétitif, c'est clé. Et la troisième chose, c'est fondamentalement la confiance qu'on est capable de créer dans le service. Et ça, je le regroupe en trois points. C'est la qualité du vélo en tant que tel. Quand il arrive chez toi, tu es impressionné par l'état dans lequel il est. La deuxième chose, c'est la fiabilité et la vitesse de livraison. Aujourd'hui, on est capable de te livrer en l'espace de 3 jours. Alors que si tu allais dans une boutique et que tu commandes un vélo, ça va peut-être prendre 2 à 3 mois pour que tu le récupères. Donc ça, c'est assez impressionnant et assez agréable pour le client. Et la troisième chose, c'est avoir un SAV hyper réactif. Il arrive qu'il y ait un petit pépin sur une pièce, le transport a abîmé quelque chose et tu veux absolument être extrêmement réactif pour que le client sache que tu es là en cas de problème. Et c'est avec cette confiance que tu crées là que tu crées du coup énormément de bouche à oreille.
D'accord, excellent. Très clair. Merci beaucoup. Salut, c'est Théo. J'espère que tu es en train de kiffer ce petit échange qu'on est en train d'avoir avec notre invité. Je fais un petit entracte parce qu'on vient de passer tout ce temps ensemble et tu sais probablement pas du tout ce que je fais et ça serait très impoli de pas me présenter. Donc mon travail, il est simple, j'aide les marques à grossir sur internet. Pour ça, j'ai monté une suite d'agences qui est aujourd'hui composée de 4 entités: Koudak pour le growth e-commerce, Le Labo pour les créa e-commerce, Linker pour la marque personnelle des CEO sur LinkedIn et 9/16 pour faire grossir les marques en organique sur TikTok. Et donc même si tu veux pas bosser avec une de ces agences dont les liens sont d'ailleurs en description, tu peux au moins t'abonner, ça encourage la chaîne parce que ça me prend du temps et ça me coûte de l'argent. Je te vois, là, tu t'abonnes pas, hein? Moi, je m'en fous, je peux attendre longtemps, je suis dans mon canap. J'attends.
A few moments later.
C'est bon ? Ouais, merci beaucoup d'avoir cliqué sur le bouton. J'arrête de t'embêter, je te laisse avec mon invité. C'est parti.
Ce que je trouve très difficile avec le focus, je t'en parlais avant l'épisode, c'est que à la fois tu sais que tout le monde te recommande d'être focus, et je trouve que c'est très difficile de trouver des preuves un peu mathématiques de il faut le faire parce que regarde, si je me focus pas, il va se passer tel truc. C'est toujours. Tu parlais avant du sujet de l'assurance pour les vélos que vous avez choisi volontairement de pas faire sur le court terme, parce que même si ça peut ressembler à être une bonne idée sur le papier, c'est-à-dire, écoute, peut-être que la quantité d'effort qui est nécessaire pour ce truc-là est faible par rapport au résultat que ça va m'apporter. J'ai l'impression que c'est souvent en fait des choix de croyance, des choix de focus, de dire je décide d'être focus, donc je suis focus, je fais qu'un seul truc. Qu'est-ce qui pourrait justifier que tu te défocuses aujourd'hui ?
Je pense que, clairement, enfin moi, ma façon de le voir, c'est quand tu as une opportunité de croissance aussi énorme sur ton cœur de métier, la barre est très élevée pour que quelque chose d'additionnel vienne sur ta table. Parce que tu as déjà tellement à faire pour capturer l'opportunité immédiate devant toi que ce n'est pas le moment d'aller regarder ailleurs. Donc, sur l'exemple des vélos électriques, tu as plus de 5 millions de vélos électriques neufs vendus chaque année en Europe. Nous, on vend quelques milliers d'unités aujourd'hui annuelles. Donc, on est très, très loin du potentiel du marché de l'occasion. Sachant que pour te donner un exemple un peu parallèle, dans le monde de la voiture, pour une voiture neuve vendue en Europe, tu as 3 voitures d'occasion qui changent de propriétaire. Donc, en gros, t'as l'ordre de grandeur et la taille potentielle du marché de l'occasion est absolument colossal. Donc ça, c'est concrètement le simple fait de racheter, reconditionner, revendre des vélos électriques. Il y a déjà tellement de marge de progression devant nous qu'il n'y a aucune raison pour nous d'aller chercher une idée supplémentaire, un service additionnel avant d'avoir déjà rempli cette mission-là de manière excessivement solide. Donc ça, c'est un peu la première manière dont on le regarde. Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui nous ferait défocus ? Je pense que ce serait, d'une part, une opportunité de taille vraiment majeure. Donc se dire, attends, là, on parle d'une opportunité face à nous qui est au moins aussi grande que ce sur quoi on se concentre actuellement. Et deuxièmement, tu as les ressources nécessaires pour pouvoir le faire sans mettre en péril ton cœur d'activité. Donc, je vais donner un exemple bête. Je pense qu'une question pour nous dans les années à venir sera de développer éventuellement une offre de scooters électriques reconditionnés. Je pense que c'est un produit qui est en train de monter en puissance. Il y a une conversion en cours des scooters thermiques vers les scooters électriques. Le stationnement payant des scooters thermiques et gratuit pour les scooters électriques accélère un peu cette tendance dans des villes comme Paris. Donc il y a un nouveau marché qui est en éclosion. Il y a une question pour nous qui est quand est le bon moment pour éventuellement se positionner sur le fait de donner une seconde vie à ces scooters électriques pour s'assurer qu'eux aussi auront plusieurs propriétaires et qu'eux aussi seront reconditionnés. Bon, tant que l'opportunité immédiate n'est pas absolument colossale et pas au moins aussi grosse que celle des vélos électriques, ça demande tellement de ressources de développer un nouvel outil un peu industriel, opérationnel, une nouvelle offre, un marketing, etc., que ça ne vaut pas encore le coup. Mais il y a un jour où clairement, le marché va se développer rapidement, on aura les moyens de se dire on peut l'attaquer maintenant et donc on s'y attaquera. Mais il faut vraiment que la taille de l'opportunité soit absolument massive.
D'un point de vue plus marketing, c'est le second sujet dont on a prévu de discuter. Tu m'as encore une fois fait 3 points, c'est magnifique. Donc moi je suis intéressé de savoir comment est-ce que vous avez chopé cette première traction sur le produit. Et aujourd'hui, à quoi ressemble un petit peu votre stratégie ? Je te laisse, je spoile pas les 3 points, je te laisse.
Ouais, bien sûr, avec plaisir. Écoute, déjà, clairement, nous, on avait la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ça marche ? Est-ce que les gens sont contents d'acheter un vélo électrique reconditionné ? Est-ce qu'ils sont satisfaits du produit ? Donc ça, c'était un peu les toutes premières semaines d'exécution en novembre quand on a récupéré les clés d'atelier. Dès qu'on a vu que la réponse était plutôt positive, on a voulu aller vite. On savait que c'était un enjeu de vitesse. On a la possibilité de, entre guillemets, devenir synonyme de l'achat d'un vélo électrique reconditionné. Mais donc, quand tu as cette opportunité-là, tu veux rapidement toucher un maximum de personnes et être en mesure de développer ton outil opérationnel et ton marketing à grande échelle. Et donc, la première chose qu'on a faite, c'est un peu tous les quick wins, un peu toutes les opportunités rapides de croissance. Et je pense qu'il y a deux choses derrière ça. Il y a tout un tas de partenariats tactiques. Je pense à des campagnes un peu RP, donc de presse. On a fait des campagnes type Paris Respire où on a organisé un stand de vélo électrique en libre service pendant la journée de Paris Respire à Place de la Bastille. Du coup, ça suscite de l'intérêt des médias, donc tu as de la couverture médiatique. Et on en a fait d'autres comme ça, mais trouver des campagnes un peu médiatiques qui te donnent de la couverture et qui te permettent d'obtenir plus de couverture que ta taille réelle de ton business ne justifie, et des partenariats plus commerciaux avec des acteurs, des TTSO ou d'autres, des VP, trouver des partenaires commerciaux avec lesquels tu peux trouver accès à une audience qualifiée qui correspond à ton produit et qui te permet rapidement de développer ton chiffre et d'avoir tes premières ventes. Et puis en parallèle de ça, tu développes tout simplement tes canaux d'acquisition plus classiques en paid. Je pense à des social channels notamment, tout ce qui est paid search. Donc vraiment la base, t'assurer que tu commences à développer ces canaux, que tu commences à avoir une courbe d'apprentissage sur ces canaux avant de pouvoir les optimiser. Donc ça permet de rapidement développer tes premières ventes et avec plus ou moins d'efficacité selon les partenariats, plus ou moins d'efficacité selon les canaux. Mais au moins rapidement, tu as ton produit qui touche de plus en plus de personnes et qui permet de faire tes ventes. Ensuite, tu as un deuxième gros chantier qui est un chantier hyper long terme, mais qui est hyper important pour notre business, qui est un chantier de SEO et de contenu, où il est clé pour nous de développer un contenu, tout un trafic organique via notre contenu. Ce qui est hyper intéressant sur le vélo électrique, c'est que c'est un marché hyper fragmenté. Donc, les gens ont beaucoup de questions, font beaucoup de recherches. Et donc, tu as énormément d'opportunités de capturer ce trafic en fonction des questions que se pose la personne. Soit elle connaît une marque et donc elle veut en savoir plus sur la marque, ou alors elle a entendu parler des moteurs Bosch, elle veut savoir comment ça marche. Et il y a tout un tas d'angles comme ça sur lesquels tu peux produire du contenu qui ensuite va amener des personnes sur ton site et ensuite va te permettre de convertir. Et donc, on a développé toute une stratégie de contenu et de SEO qui prend du temps à exécuter, mais sur laquelle on a fait beaucoup de progrès. Et ensuite, le troisième levier, c'est qu'une fois que tu commences à avoir ton trafic qui augmente et tes revenus qui augmentent, tu es en mesure d'investir plus sur des campagnes de marque. Et là, ce qui est très puissant, c'est que on est sur un produit qui, on en parlait, mais qui est cher. Ça reste, plus de 1 500 € de prix d'achat moyen. Et un produit qui est un peu complexe techniquement. Tu as un moteur, une batterie, les gens se posent beaucoup de questions. Et donc la confiance, c'est vraiment un sujet important. Ça peut être une vraie barrière à l'achat, de manquer de confiance dans le revendeur, dans le produit. Et donc les campagnes de marque, elles font deux choses pour nous. La première, c'est qu'elles nous, évidemment, elles nous ouvrent une audience beaucoup, beaucoup plus large. Et en fait, le vélo électrique, c'est un produit qui touche aussi bien des urbains que des personnes dans les zones rurales, aussi bien des jeunes trentenaires que des personnes de 50 ans ou à la retraite. Donc toucher cette audience plus vaste, c'est hyper important. Mais surtout, ces campagnes de marque, elles légitiment vachement ton business, elles légitiment énormément ta marque et elles donnent énormément confiance dans ton produit. Et donc, être capable de déployer progressivement de plus en plus de campagnes de marque. On a fait notre première campagne en octobre dernier, là on va en déployer d'autres au printemps. Ça nous permet d'agrandir notre audience et de renforcer cette confiance dans la marque.
Ok. Tu peux peut-être rentrer un peu dans le détail de cette campagne d'octobre dont tu avais l'air assez content avant le podcast.
Ouais, on a concrètement, c'était une campagne qui était 100% digitale déjà. Donc on reste pour l'instant sur des canaux digitaux. Tu contrôles comme ça tes budgets, tu peux vraiment l'étaler dans le temps. C'est aujourd'hui en tout cas plus pertinent pour notre taille de business. Et ça a été une campagne sur laquelle on a principalement axé nos canaux sur tout ce qui était vidéo on demand. Donc des contenus vidéo sur lesquels tu as énormément d'attention de la part des utilisateurs et où il y a assez peu de skipped videos et où les gens généralement finissent la vidéo. Et ensuite, la manière dont on l'a approché, c'est qu'on a voulu absolument avoir un contenu créatif, vu que la marque n'est pas encore connue. On avait besoin de capturer l'attention. Et en gros, on a eu, grâce à notre agence notamment, mais on a eu un super concept créa où on a bossé avec Greg Guillotin qui était assez cynique sur le vélo électrique, mais lui-même qui roulait sur un vélo électrique parce que à ce prix-là, qui peut refuser un vélo électrique reconditionné. Et donc, à la fois le concept et les canaux qu'on a choisis, je pense, ont vraiment expliqué aussi le succès de la campagne. Ça a été... Ça a été gros générateur de beaucoup de trafic et ça a amélioré l'efficiency de nos canaux d'acquisition paid par ailleurs. Donc, ça a été un beau succès.
Ouais, tu t'as mesuré comment le succès de cette campagne de brand ?
Alors, c'est une bonne question. Ce qui est dur en plus, c'est que quand tu lances tes premières campagnes de brand, tu t'attends plutôt à des impacts long terme.
Ouais.
Donc, généralement, tu essaies de pas être excessivement, d'avoir des attentes excessives sur les résultats très court terme parce que tu es vraiment sur un enjeu de plusieurs années, de devenir une marque qui est top of mind pour les consommateurs qui réfléchissent à ton produit. Concrètement, ça a été d'abord une mesure du trafic et en particulier du trafic organique qu'on a pu générer. Et la deuxième grosse mesure, c'était l'efficiency que tu gagnes sur tes canaux d'acquisition payants. Parce qu'en fait, évidemment, tu as énormément de spillover, tu as énormément de gens qui finalement te retrouvent par du paid search ou après cliquent plus facilement sur tes campagnes social. Et donc, on a mesuré le succès par la hausse du trafic organique, par la hausse des ventes organiques, mais aussi par l'amélioration de l'efficiency sur les canaux payants.
Amazing. Toujours très clair. Merci beaucoup, Toussaint. C'est un plaisir. C'est facile de... d'embrayer. Écoute, je vais te lancer un peu sur cette dernière partie qui est sur la partie perspective. Parce que vous ouais. Bon, ce qui m'est venu suite au fait que tu m'as parlé que vous êtes en train de préparer le lancement aux US.
Ouais, exactement.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les tiroirs? C'est quoi la vision?
Bah, clairement, 2022 pour nous, c'était une année de tu vois, prouver le product market fit et ensuite faire grandir nos opérations en Europe. On en a parlé, mais voilà, on s'est concentré sur ces quatre gros pays européens qui représentent l'essentiel de l'opportunité aujourd'hui en Europe. Donc, c'était ça vraiment l'énorme focus. Je pense que là, l'année 2023, il y a un peu deux grandes priorités. La première, c'est effectivement de se lancer sur le territoire américain. Donc là, on a récupéré les clés de l'atelier à Brooklyn. On va être en mesure d'ici quelques semaines de vendre nos premiers vélos reconditionnés sur le territoire nord-américain, notamment sur la côte Est. Donc ça va être un gros chantier, une grosse priorité. C'est un marché hyper différent, mais qui va très, très vite. Donc on veut absolument être présent rapidement là-bas. Donc ça, il y a énormément de boulot qui va derrière ce lancement. Et la deuxième priorité, c'est un enjeu de prise d'échelle tout simplement sur le territoire européen. Ça passe par tu vois, deux choses, mais il y a continuer à vraiment établir une marque consommateur très connue et qui touche énormément de gens. Donc il y a vraiment un gros enjeu de prise d'échelle de notre marketing. Et un deuxième enjeu qui est de capacité opérationnelle. Tu vois, on est un acteur e-commerce, mais avec une activité physique de reconditionnement de vélo. Tu vois. Donc on a besoin d'avoir l'équipe de mécaniciens capable de reconditionner tout ça. On a besoin d'avoir les locaux, d'avoir les ateliers, d'avoir les process qui te permettent de passer de quelques milliers de vélos à quelques dizaines de milliers de vélos. Et tout ça à très grande vitesse. Donc c'est un peu ça les deux gros chantiers européens. C'est un chantier marketing, un chantier opérationnel. Et puis surtout, ce lancement aux US qui va être plein de bonnes ou de mauvaises surprises, je ne sais pas, mais en tout cas, qui va être un sacré... qui va être, je pense, une belle aventure, un beau challenge et qui ouvre plein de portes parce que le marché nord-américain, quand il se développe aussi vite que ce qu'on voit là des trois dernières années sur le vélo électrique, c'est un marché qui peut devenir énorme et absolument majeur extrêmement rapidement. Donc, je suis convaincu que les US seront rapidement ouais. plus gros que l'Europe alors qu'ils partent de beaucoup plus loin.
Et vous attaquez avec quelle ville?
Donc là, on lance l'atelier à New York, ouais. Mais on va tout de suite desservir tout ce qui est côte Est et ouais. notamment le Nord-Est des US, avec la perspective de rapidement desservir tout le territoire États-Unis.
Ok, donc dans ce cas-là, vous recrutez quelqu'un là-bas?
Ouais, donc on a déjà une équipe sur place. Donc on a un GM, un General Manager qui gère Puebla, qui s'appelle Max, qui a bossé chez Uber auparavant. Et qui a monté Original. Une belle équipe. Et qui a monté une belle équipe. Donc on a déjà quelqu'un qui gère toute la partie acquisition de vélos, donc auprès de professionnels notamment. On a déjà une équipe opération, un chef d'atelier pour être en mesure de voilà, reconditionner les vélos, de faire toute la partie logistique, tout le support. Et le dernier rôle qu'on est en train de recruter, c'est la partie marketing. Elle est gérée par l'équipe aujourd'hui, mais on recherche quelqu'un de dédié à ça. Donc si vous connaissez des talents à New York qui recherchent. Ouais. Avoir un bel impact, on est en recherche là-bas.
Ce sera noté. Je suis pas sûr que mon réseau
s'étende là-bas, mais écoute,
très bien là-bas, étant un peu plus jeune que toi. Ok, alors merci beaucoup. Tu connais la dernière question de ce podcast, c'est y a-t-il ouais. une autre marque e-commerce ou pas d'ailleurs dont tu admires les stratégies de croissance? On a un petit peu discuté avant, je crois que j'aime bien celle que tu m'as.
Ouais, bah, je pense qu'une marque qui nous a, et qui moi en tout cas personnellement, m'a pas mal inspiré quand on a eu l'idée d'Upway, quand on s'est lancé, c'était Allbirds. Je pense que Allbirds, il y a plusieurs choses que j'aime beaucoup. Je pense que la première, c'est qu'ils ont su développer une stratégie e-commerce assez puissante. Tu vois, ils ont une vitesse de croissance et une capacité à se développer sur plusieurs territoires internationalement de manière hyper rapide, donc très impressionné. Et d'autre part, je trouve qu'ils ont réussi à faire une chose assez rare, c'est garder une identité de marque extrêmement forte. Donc, tu vois, avec un positionnement sur leur valeur environnementale, sur la dimension tu vois, hyper vertueuse de leurs produits, tout en étant et en touchant un marché de masse et en étant extrêmement accessible au plus grand nombre, donc sans être excessivement un produit de niche. Et ça, je trouve que c'est assez rare. Tu vois, je trouve qu'il y a il y a plein de boîtes qui ont énormément de caractère, qui ont une marque extrêmement forte, mais qui s'adressent finalement à une niche. Très vite, quand tu tombes dans le mass market, ça peut devenir un petit peu, ta marque peut devenir un peu neutre et ça peut être difficile de te distinguer. Et je trouve que Allbirds a fait un excellent travail pour garder voilà, une personnalité extrêmement forte et distinctive, tout en touchant un marché de masse. Et le dernier truc plus en détail que j'avais bien aimé, c'est que je trouve qu'en termes de UX, tu vois, moi c'était nouveau pour moi le e-commerce, toute la partie expérience utilisateur du e-commerce, et je trouve que pour moi ça a été très vite un exemple en termes de, bah, voilà, de, d'expérience online qui est extrêmement fluide, qui est extrêmement, qui t'imprègne énormément de leur image de marque, tout en étant extrêmement simple d'utilisation. Donc, ouais, un bel exemple pour moi, clairement.
Bah, super. Eh bien, je vais compléter avec la vision marketeur d'Allbirds qui m'a fait aimer la simplicité créative. Je trouve que, je ne sais pas si tu vois un petit peu ce qu'ils ont comme élément créatif en campagne d'acquisition.
C'est toujours quelques campagnes en tête, je pense.
Ouais, c'est toujours super sobre,
ouais.
Clair, et pourtant c'est de la, tu vois, c'est clairement des visuels de conversion. Donc, je connaissais pas trop ce genre. C'est un peu moi comme ça que je me suis formé. Tu sais, quand j'ai lancé Kodak il y a 2-3 ans, je regardais beaucoup Allbirds,
ouais.
Entre autres avec les Gymshark, etc. Dont on a parlé aussi un tout petit peu avant d'allumer les caméras.
Ouais.
Voilà. Bref, donc Allbirds, vous connaissez, une bonne référence. Tout ça, on arrive à la fin de ce podcast. Je crois que ça coûte combien ça tourne depuis combien de temps? 30 minutes, je crois. 33 minutes, parfait. On a raccourci le format comme prévu. Écoute, je vais te remercier d'avoir passé ce temps avec moi.
Merci à toi.
C'était un plaisir. Félicitations pour cette croissance fulgurante. J'espère que ça va se poursuivre aux US et dans le monde entier par la suite.
Bah écoute, je te tiendrai au courant, mais merci pour l'invitation et ravi d'avoir pu discuter.
Et bah avec plaisir, on va dire au revoir à nos auditeurs. Plein de bisous, chouchou, c'est là si tu veux.
Bye bye, merci beaucoup.
Ouais, salut.